Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, à quoi bon être encore fonctionnaire ? À quoi ressemblera la fonction publique à l'avenir ? Elle sera plus attractive et plus réactive. C'est en tout cas l'ambition du gouvernement au moment où les députés entament la discussion du projet de loi consacré aux fonctionnaires. Les débats vont durer 2 semaines, ils promettent d'être animés. Une partie de l'opposition, qui embraye sur la grève unitaire des syndicats de jeudi dernier, dénonce notamment le projet de recourir davantage aux contractuels et par conséquent de recruter moins de fonctionnaires au statut. Or, ce n'est pas la première fois que la fonction publique fait l'objet d'une réforme. La RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques en 2007, avait par exemple fixé comme objectif le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2. Cette fois-ci, il s'agit surtout de repenser le fonctionnement interne sans pour autant abandonner l'idée d'une réduction de postes. On peut ajouter à cela la prochaine réforme des retraites et la volonté de faire converger les différents systèmes, celui des fonctionnaires étant réputé plus avantageux que dans le privé. Alors, à quoi bon être encore fonctionnaire ? Eh bien, pour en discuter ce soir, 3 invités. Dont 2 fonctionnaires. Emilia New, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fonctionnaire territoriale, directrice de la transformation et du dialogue social au sein de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir. Je reprends mon souffle. Et vous êtes par ailleurs membre de l'association FP21, qui est une association qui regroupe de jeunes agents des services publics, c'est ça ?
Tout à fait. Des jeunes agents publics, des 3 fonctions publiques et tous statuts confondus.
Fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Pour discuter avec vous, Gaëlle Martinez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes syndicaliste, déléguée générale solidaire fonction publique. Vous travaillez à la DGCCRF. Est-ce que j'ai rajouté un C en trop ?
Je crois que oui. Peut-être. Oui, c'est Direction Générale de la Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes.
Voilà, vous y êtes inspectrice, oui, vous y travaillez depuis 20 années, je crois.
Oui, tout à fait.
Et puis notre 3e invité, elle est en duplex des studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Il s'agit d'Aurélie Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, membre du LEST, le Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, enseignante chercheuse à l'Université Aix-Marseille, et vous allez publier d'ici quelques semaines, ce sera au mois de juin chez Armand Collin, Sociologie de l'emploi public. Alors, pour entamer cette discussion, eh bien, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un reportage qui date déjà d'une 30aine d'années. Nous sommes en 1990, c'est une émission d'Antenne 2 dont j'avais oublié l'existence, qui s'appelait Objectif Écho. Et elle consacrait dans ce numéro du mois de février un reportage à un couple de fonctionnaires, reportage signé à l'époque Claire Chazal.
Gilles Guy a choisi l'administration, les PTT, en 1968.
Alors c'est vrai que nous, là, derrière le guichet, on fait figure de nantis à ce moment-là, avec notre petit travail soi-disant tranquille, parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'énorme tension qu'on peut avoir derrière ce guichet. J'ai la peur de se tromper, les erreurs de caisse, ça c'est un problème important. Des jeunes qui débarquent, ils gagnent 5000 francs ici. C'est tout. C'est pas des salaires mirifiques, je veux dire.
Carole est fonctionnaire, elle aussi, assistante sociale depuis maintenant 8 ans.
J'aime pas trop quand on parle de fonctionnaire, parce que c'est souvent synonyme un peu de tir au flanc. Ça me plaît pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui travailleraient aussi bien dans le privé. On nous demande de plus en plus d'être dynamique, d'avoir des projets, d'être créateur. On ne peut pas payer les agents au lance-pierre et avoir beaucoup d'exigences par rapport à eux. Je crois que c'est pas la sécurité de l'emploi ne justifie pas n'importe quoi.
Voilà l'extrait de ce reportage diffusé en 1990 dans une émission d'Antenne 2. Alors évidemment, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce parce qu'on est passé du franc à l'euro, mais il y a sans doute des traits qui se sont maintenus au fil des années. On entend notamment ce témoignage de cette jeune femme qui dit « j'aime pas trop parler de fonctionnaire parce que l'image est pas terrible ». Gaëlle Martinez, vous, alors, quand par exemple, je ne sais pas, vous allez en soirée et qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas et que vous devez vous présenter, est-ce que vous vous présentez assez spontanément comme fonctionnaire ?
Écoutez, oui. Moi, j'ai pas forcément de problème par rapport au fait de me présenter comme fonctionnaire. Hein. J'ai pas de honte. Et je considère que, au contraire, être fonctionnaire, c'est plutôt un honneur, parce qu'on est là pour servir l'intérêt général, pour servir la population. Donc, à titre personnel, moi, j'en suis très fière d'être fonctionnaire.
C'est pas un métier, c'est un statut. Donc, on pourrait aussi considérer que c'est peut-être pas la façon de se présenter. Et quand vous le faites, alors imaginons. Hein, je veux pas trop vous interroger sur votre vie privée, mais quand vous le faites avec avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous dites fonctionnaires, justement, est-ce que ça provoque des réactions comme l'évoquait ce couple dans le reportage?
Ni oui ni non, je dirais. À titre personnel, j'ai jamais eu de problème particulier. Après, on est quand même malgré tout dans une période où on va dire que ça n'a pas forcément changé en mieux, cette situation. On voit bien que le fonctionnaire bashing, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu et que, voilà, on a tendance à dire les fonctionnaires, ils font pas ceci, ils font trop cela, etc. Et malgré tout, on voit que il y a une tendance, que ça soit chez les journalistes parfois, d'une certaine presse, ou alors souvent, malheureusement, un petit peu chez les politiques, de trouver chez les fonctionnaires un petit peu des boucs émissaires à un certain nombre de choses et à se dire que bah, finalement, les fonctionnaires, ça coûte cher. Et puis, est-ce que vraiment, ça rapporte quelque chose? Moi, je suis plutôt dans l'optique que oui, un fonctionnaire, c'est une vraie richesse pour notre pays.
Vous n'allez pas échapper à la même question, Émilie Agnew.
J'aurais tendance à dire que pour moi, c'est pas une difficulté non plus. Effectivement, je suis très fière d'être fonctionnaire. Je l'ai choisi. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de fonctionnaires. Hein. Souvent, on ne devient pas fonctionnaire par hasard. On devient fonctionnaire parce qu'on a le sens de l'intérêt général, parce qu'on a le goût de l'engagement. Chez moi, ça a été plutôt assez spontané, inné. Je l'ai su assez rapidement que j'étais plutôt faite pour la fonction publique.
Assez rapidement, ça veut dire quoi?
En fait, je me suis pas vraiment posé la question.
Quand vous étiez toute petite, vous disiez un jour, je serai dans la fonction publique territoriale.
Alors pas dans la fonction publique territoriale. Et ça, c'est ce qui fait à la fois la richesse, je pense, et toute la complexité de la fonction publique. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand on rentre dans la fonction publique, on rentre pas forcément pour y exercer un métier. On rentre d'abord en tant que fonctionnaire, titulaire d'un statut de droits et d'obligations spécifiques. Et pourtant, ça ouvre les possibilités à une très large diversité de métiers, de situations de travail, d'emplois. On peut travailler à n'importe quel endroit du territoire. On peut faire des mobilités, on peut se former. On a même la possibilité de faire des allers-retours avec le privé. Donc pour moi, ça correspondait vraiment à un projet de vie, à une volonté d'engagement. Et je pense que ça fait sens aujourd'hui où on voit aussi que de plus en plus, on recherche du sens au travail. On cherche une utilité sociale. Et parfois, on parle de la fonction publique comme si elle était restée dans du formol. Enfin là, le reportage qu'on vient d'entendre, on aurait très bien pu le tourner, je pense, aujourd'hui. On aurait à peu près les mêmes constats. Et pourtant, les administrations, la fonction publique se transforme, il y a de nombreuses réformes, il y a plein d'initiatives qui sont portées par des agents publics, par des administrations. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà entendu parler de tout ce qui s'appelle l'innovation publique, les laboratoires d'innovation. Donc il y a vraiment de nouvelles pratiques professionnelles qui se développent dans l'administration et ça correspond plus du tout en fait à la réalité vécue par les fonctionnaires par rapport à l'image qui peut rester effectivement dans l'esprit général. Mais peut-être s'il y a une différence entre la relation qu'on peut avoir avec nos entourages quand on parle, nous, de notre engagement de fonctionnaire, c'est que souvent, les Français, ils ont quelqu'un dans leur entourage qui est fonctionnaire, qui est agent public. Et donc, finalement, la représentation collective qu'on peut parfois avoir de la fonction publique, elle dénote de la représentation qu'on peut avoir à partir d'expériences vécues dans son entourage.
Cette représentation qu'on peut avoir des fonctionnaires, Aurélie Perrin, vous qui vous intéressez justement à cette sociologie de l'emploi public, est-ce que c'est quelque chose qui est relativement figé ou vous y voyez une forme d'évolution à la fois pour ceux qui sont à l'extérieur de ce statut, de ces emplois, et à la fois aussi du point de vue de ceux qui sont fonctionnaires et qui sont agents publics?
Alors, il y a des choses qui sont assez stables, et notamment ce que vous avez appelé le fonctionnaire bashing. On trouve en fait des pamphlets anti-fonctionnaires dans les archives depuis une centaine d'années. Avant même que le statut existe, quasiment, il y avait une opposition au fonctionnarisme qui était dénoncé comme ceci, et donc à cette image du fonctionnaire tire au flanc, comme disait l'extrait, privilégié, comme le disait aussi l'extrait. Et en même temps, on a depuis plusieurs décennies déjà une constance forte de l'engagement que précisait Émilie Agnew. On n'entre effectivement pas dans la fonction publique par hasard, et ça reste très fort. Donc il y a à la fois du côté du public une ambivalence, enfin du public des, je dirais, tirer de la population générale une ambivalence. Les fonctionnaires qui sont décriés, souvent critiqués, et pourtant un très fort attachement au service public, en particulier à l'hôpital, aux pompiers, aux policiers. Et du côté des fonctionnaires, des agents publics, on a ce maintien d'un engagement au service du public qui se transmet de parents à enfants, puisque la plupart des fonctionnaires sont enfants de fonctionnaires, et qui se maintient dans les enquêtes auprès des jeunes, où la majorité des personnes qui passent les concours de la fonction publique le font pour exercer un métier spécifique. Donc il y a cette idée de passion pour le métier dans la moitié des cas, et sinon qu'ils le font pour ce que décrivait aussi Émilie Agnew, c'est-à-dire c'est ce grand espace de carrière professionnelle possible, de mobilité, de changement de métier, dans un cadre protégé, effectivement.
Quelle est la part, Amélie Perrin, de Aurélie, pardonnez-moi, Aurélie. Perrin, du statut dans l'attractivité qu'exerce le métier de fonctionnaire, enfin le statut justement de fonctionnaire aujourd'hui pour ceux qui souhaitent justement rejoindre la fonction publique?
Alors la dernière enquête dont je vous parlais est une enquête auprès des jeunes qui viennent de finir leur formation initiale et qui ont passé un concours à la suite de la fin de leur formation initiale. Et finalement, l'attrait du statut en tant que tel, c'est-à-dire la protection de l'emploi, c'est un tiers des candidats. Mais c'est le full package, je dirais, c'est-à-dire le statut plus les perspectives de mobilité, plus les perspectives de promotion. Donc c'est l'ensemble. Et c'est aussi l'intérêt du métier. Et donc c'est aussi ces valeurs de service public qui comptent dans cette décision. Et on oppose à ce tiers la moitié des candidats qui, eux, sont intéressés plutôt par un métier. On peut penser aux magistrats, aux enseignants, aux policiers, qui cherchent des métiers spécifiques à la fonction publique. Et il reste, du coup, finalement, assez peu de candidats qui passent les concours par défaut.
Cette question du statut, Gaëlle Martinez, elle est évidemment extrêmement importante, puisque c'est un des points de la réforme de la fonction publique, qui est donc en discussion depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors même si le gouvernement le dit, hein, il ne s'agit pas de modifier le statut, de revenir sur le statut, mais de recruter davantage des contractuels. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et est-ce que ça remet, si ce n'est directement, en tout cas indirectement, en cause le statut des fonctionnaires?
Alors déjà, par rapport aux contractuels dans la fonction publique, il faut quand même préciser qu'il y a déjà plus d'1 200 000 contractuels dans la fonction publique, hein, sur les 5 millions d'agents publics. Donc, c'est-à-dire que ça existe déjà même largement.
Un agent sur 5, hein, d'après les chiffres que j'ai vus.
Ce qui n'est pas sans nous poser souci. Hein, pour Solidaires, on considère que déjà, on voudrait la titularisation de ces agents parce qu'on considère que le contrat porte en lui-même le germe de la précarité et qu'il concerne aussi notamment beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc ça, c'est une première chose sur le contrat. La deuxième chose, c'est que effectivement, le gouvernement dit aujourd'hui non, ne vous inquiétez pas, le statut persiste, tout reste comme avant. Sauf que en élargissant le nombre de dérogations sur lesquelles on peut désormais engager des contractuels, on fragilise en allant quasiment jusqu'à détruire le statut de la fonction publique.
Là Et pour où... vous, c'est une opposition de principe au recours au contractuel, ou bien ça peut s'avérer nécessaire dans certains cas, parce que ça offre aussi une forme de souplesse et de réactivité?
Alors, la question, c'est pourquoi le statut de la fonction publique? Le statut de la fonction publique, à la base, alors on le présente souvent comme quelque chose de protecteur pour les agents, mais le statut de la fonction publique, il est là pour protéger la population. Il n'est pas là, à la base, pour protéger les agents, si ce n'est des pressions politiques et économiques dans l'exercice de leur mission. Et ça permet quoi pour la population? Ça permet d'avoir un égal accès aux services publics, sans discrimination, etc. Et ça permet que les agents puissent faire leur travail et qu'ils ne soient pas, par exemple, menacés d'être licenciés s'ils ne font pas telle ou telle autre chose. Voilà, le statut, voilà, le fondement du statut, il est là. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler parce que, bien souvent, on utilise le statut de manière un petit peu dévoyée. Donc voilà, après, les contractuels, il y en a déjà beaucoup dans la fonction publique. Aujourd'hui, on nous dit il y a des endroits où ça permettrait de recruter sur des choses un petit peu particulières comme l'informatique. Nous, on a plutôt tendance à dire, bah, dans ce cas-là, créons clairement des déroulés de carrière et des choses particulières chez les fonctionnaires. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'informatique, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est quand même plutôt quelque chose qui a tendance à vouloir s'implanter un peu partout. Donc, créons des filières de fonctionnaires pour s'occuper de ces choses-là aussi. On a pour nous, la contractualisation ne peut pas aller de pair avec la fonction publique et les services publics.
Émilie Agnew, de votre côté, comment est-ce que vous voyez, vous, ce recours de plus en plus important aux contractuels? Est-ce que vous y voyez la preuve de services publics, d'administration qui font preuve de souplesse, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'administration n'est pas figée, ou bien est-ce que vous le voyez comme quelque chose qui fragilise justement le statut de fonctionnaire?
Faut rappeler quand même que le statut, il a vocation à remplir trois grands impératifs du service public, qui sont la continuité du service public. On ne peut pas se permettre d'avoir une rupture dans l'accès aux droits, dans l'accès aux transports, à l'école, dans un certain nombre de services publics. Ça vise à garantir la continuité du service public et donc ça permet de réquisitionner, par exemple, des agents publics en cas de grève. Ça permet également de garantir l'adaptabilité du service public. Donc ce statut n'est pas un frein à la transformation de la fonction publique. Au contraire, il a été conçu pour permettre son adaptation aux besoins et aux attentes de la société et des citoyens.
Avec les contractuels, vous avez encore plus d'adaptabilité parce que vous pouvez choisir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement peut-être des profils qui seraient beaucoup plus longs à mettre en place dans le cadre plus classique, on va dire, du statut de fonctionnaire, non, Émilie Agnew?
Alors, pas nécessairement, parce que justement, le statut de la fonction publique, on dit souvent qu'il est protecteur, mais en fait, quand on est fonctionnaire, on est titulaire de son grade, mais pas de son emploi. Donc, ça permet de redéployer des fonctionnaires. Si on veut faire des réorganisations de services, si on veut déployer de nouveaux services publics, on peut redéployer les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont aussi un droit à la formation, donc des droits qui balancent avec des devoirs, qui permettent de développer des parcours de carrière, de développer les compétences pour repositionner les agents. Et par ailleurs, la fonction publique, ça requiert des compétences particulières. On ne s'improvise pas du jour au lendemain expert en droit public, en finances publiques. Je parle dans les collectivités territoriales, la relation à l'élu, aux citoyens aussi, elle est très particulière. Et donc parfois, recruter des contractuels, ça suppose aussi qu'eux-mêmes, ils s'acculturent à cet environnement-là. Donc ça peut prendre aussi du temps. Et puis, il y a un sujet qui est posé particulièrement et auquel les Français sont particulièrement attentifs depuis quelques années, c'est la question de la déontologie et des conflits d'intérêts. Et donc, en recrutant des contractuels qui viennent du privé, potentiellement, on accroît les risques de conflits d'intérêts. Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, c'est de moins en moins accepté.
Aurélie Perrin, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'avoir ce recours de plus en plus important aux contractuels? Est-ce que ça ne part quand même pas d'un constat qu'il y a des rigidités au sein de l'administration qui sont liées notamment à ce statut des fonctionnaires et qu'il y a aussi besoin d'assouplir peut-être un petit peu l'organisation du travail?
Alors, c'est pas tout à fait nouveau le recours au contractuel. Hein. Souvent, on entend dire que c'est l'effet de l'introduction du nouveau management public ou que ce serait l'ère néolibérale de l'État. En fait, des agents non titulaires, il y en a toujours eu dans l'administration. Il y en a même eu énormément à certains moments pendant les deux guerres mondiales, par exemple. Donc, à ce moment-là, par exemple, c'était essentiellement pour accroître très vite la réponse à des besoins qui étaient exceptionnels, qu'on recourait à des agents hors statut. Et on pouvait du coup s'en débarrasser, entre guillemets, ou s'en séparer très vite aussi. Donc c'était pour répondre à des fluctuations d'activité. C'est l'usage classique de la flexibilité externe. Aujourd'hui, on est dans un schéma un peu différent. Pour autant, la majorité des recrutements dans la fonction publique se font désormais hors du statut. Et ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas.
Est-ce que ça peut pas répondre aussi, Aurélie Perrin, à un choix? C'est-à-dire, dans un monde dont on nous dit que les métiers, par exemple, qui existeront dans 10 ans, 20 ans, une certaine partie ne seront pas connus, où il va falloir être extrêmement mobile, est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre de gens qui se satisfont tout à fait de la contractualisation au sein de la fonction publique, plutôt que d'embrasser un statut qui vous dit que vous allez avoir ce statut à vie, ce qui peut peut-être en réfréner certains?
Alors, il y a deux choses. On était parti sur pourquoi les employeurs publics recrutent en dehors du statut. C'est Pour avoir plus de souplesse, vous le disiez, recruter plus vite, oui, sans doute. Souvent, c'est quand même pour répondre à des besoins ponctuels, remplacer des agents qui sont absents, etc. Et notamment des agents en formation, parce que la fonction publique forme énormément ses agents. Donc la question de la transformation des métiers, de l'adaptabilité, comme l'a dit Émilie Agnew, en fait, eh bien, c'est déjà le cas. Les fonctionnaires se forment régulièrement, et donc il n'y a pas forcément de manque de compétences. La fonction publique est un énorme marché interne sur lequel les agents peuvent se déplacer. Donc on peut introduire de la flexibilité interne et faire bouger les agents, faire bouger leurs compétences et les changer de poste, bien sûr. C'est possible puisque l'employeur, justement, dispose des emplois. Côté agent public, des besoins, des envies d'être plus libre, de ne pas, comment dire, de ne plus être enfermé dans un carcan statutaire, je n'ai aucune enquête qui le montre. En l'occurrence, les concours de la fonction publique restent attractifs, même si le nombre de candidatures par poste baisse un peu. C'est aussi l'effet de la rétractation du nombre de concours de recrutement d'agents statutaires. Et en général, le nombre de candidatures s'ajuste. Plus on ouvre de postes d'emploi statutaire, plus il y a de candidats. Là, la tendance depuis 20 ans, c'est une baisse drastique. C'est deux fois moins de recrutement statutaire en 20 ans. Et du coup, les candidatures baissent aussi en réponse à cette baisse de l'offre. Mais on n'a pas de preuve empirique que c'est moins désirable d'être fonctionnaire statutaire aujourd'hui. La preuve, ceux qui sont en contrat aujourd'hui dans la fonction publique, la plupart du temps, passent des concours pour devenir fonctionnaire.
En tout cas, avis aux amateurs, ça peut être l'objet d'une prochaine étude. Alors, je rappelle que ce soir, on pose la question suivante. À quoi bon être encore fonctionnaire? Nous le faisons en compagnie d'Aurélie Perrin, qui est sociologue et qui est en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence, avec Émilie Agnew, fonctionnaire territoriale et membre de l'association des jeunes agents publics FP21, et Gaëlle Martinez, déléguée générale solidaire fonction publique. Et Aurélie Perrin a utiliser ce terme de carcan statutaire pour parler du statut, donc pas forcément le reprenant à son compte, hein. Mais en tout cas, est-ce que carcan statutaire, il n'y a pas aussi un fond de vérité? C'est-à-dire, est-ce que le statut, quand on est fonctionnaire, ne vous conditionne pas à avoir une évolution qui n'est peut-être pas aussi souple qu'elle pourrait l'être, par exemple en termes de salaire, par exemple aussi en termes d'évolution à des postes? Et c'est-à-dire, il y a des choses qui sont extrêmement automatisées, Gaëlle Martinez, et qui font qu'on a peut-être envie aussi d'avoir des déroulements de carrière qui sont plus liés au mérite personnel plutôt qu'à sa position d'entrée dans la grille de la fonction publique.
Alors, déjà, je dirais que contrairement à ce qu'on peut imaginer dans la fonction publique, c'est relativement souple. C'est-à-dire qu'un agent qui a envie de changer, il y a des positions, ce qu'on appelle des positions statutaires, qui lui permettent de passer d'une administration à une autre, qui lui permettent de partir dans le privé s'il le souhaite. Les fonctionnaires ont 10 ans de disponibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir, quitter leur poste, et s'ils le souhaitent, ils reviennent dans la fonction publique. Donc, il ne faut pas imaginez le statut comme quelque chose qui vous bloque sur un poste, sur une résidence, et vous ne pouvez plus jamais bouger de votre vie. Souvent, les rigidités, et parce qu'effectivement, il y en
quand
a...
Quand on est catégorisé, par exemple, passer à la B et puis ensuite à la A, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps.
Alors ça prend du temps parce qu'effectivement on passe des concours. Alors nous on est très attachés aux concours parce qu'on considère que c'est un gage de, comment dire, de transparence, et ça évite notamment le clientélisme et toutes ces dérives un peu opaques qui nous dérangeraient dans l'exercice notamment des missions de service public. Après aujourd'hui, quand il y a de nombreuses rigidités aussi qui sont là, mais qui sont plus parce que les services aujourd'hui sont aussi dans des grosses difficultés, qu'il y a un certain nombre de services qui n'ont plus suffisamment d'agents pour fonctionner correctement, et que si un agent demande à partir et aller dans une autre administration, souvent il peut essuyer un refus parce que les services ne peuvent plus fonctionner. Et c'est là la plus grosse difficulté, c'est que la mobilité choisie, nous on est absolument pour, on n'est pas là pour bloquer les fonctionnaires, on n'est pas là pour, il ne faut pas croire ou penser que les fonctionnaires sont des espèces de choses monolithiques complètement enfermés et qui ne bougent jamais, ce serait totalement faux. Il y a des gens qui parfois sont des spécialistes dans un secteur et qui n'ont pas du tout envie de bouger. Il y en a qui ont envie de d'aller ailleurs, etc. Il faut laisser le choix à chacun. Les rigidités aujourd'hui, souvent, elles sont le fait des conditions qu'on connaît, des suppressions d'emplois qui se multiplient. Voilà, donc on pense qu'il y a, il y a de quoi faire. Et ce qui est dans le projet de loi aujourd'hui et qui est affiché comme étant on va permettre aux gens de pouvoir aller dans le privé, alors avec toutes les réserves effectivement sur tout ce qui est déontologique, c'est plus là pour accompagner les restrictions, les suppressions de missions, les suppressions de services publics, les privatisations qui sont en cours et qui vont arriver au fil du temps. Elles sont plus ces choses-là sont plus là pour ça.
Les principales rigidités, vous les voyez où, vous, Émilie Agnew? Parce qu'on va pas faire non plus comme si tout se passait formidablement bien et tout le temps au sein de la fonction publique. J'imagine qu'avec votre association de jeunes agents publics FP21, c'est pas juste pour faire du prosélytisme et pour dire à l'ensemble de la jeunesse française, venez, rejoignez-nous, devenez fonctionnaire. Il y a aussi, j'imagine, des choses qui vous paraissent être importantes à changer, à faire évoluer.
Oui, en effet, et l'association FP21 a plutôt tendance à dire qu'on peut déjà faire changer des choses sur le terrain, dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion des compétences de tous les agents publics, dans le changement de pratiques managériales, organisationnelles, de pratiques professionnelles. Et c'est plutôt par le bas aussi que les choses pourront changer.
Quand vous dites changement de pratiques managériales, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez constater qu'il faudrait changer et qu'est-ce qu'il faudrait changer ? C'est-à-dire comment il faudrait le changer plutôt ?
On sait bien qu'historiquement, les administrations se sont construites sur le modèle légal, rationnel, théorisé par Max Weber. Et donc, c'était des organisations qui étaient assez hiérarchiques, cloisonnées, qui visaient la sécurisation des actes, hein, puisqu'on a quand même une obligation notamment d'égalité devant le service public, et donc le droit y tient une place prépondérante. Et ces dernières années, on voit que les administrations s'ouvrent à de nouvelles pratiques parce que, notamment, les problématiques sociétales sont plus complexes et donc supposent de décloisonner les services, de faire travailler les services ensemble. Par exemple, quand on parle de transition écologique, énergétique, environnementale, ça suppose de faire travailler ensemble dans une collectivité territoriale, la direction des transports, de l'aménagement, de l'économie, direction de la propreté urbaine. Donc toutes ces pratiques évoluent, on fonctionne de plus en plus en mode projet. On donne aussi plus d'initiatives et d'autonomie aux agents, parce que ce sont les agents de terrain qui sont au contact des usagers qui connaissent le métier, qui peuvent aussi le mieux faire évoluer les pratiques. Et donc on est dans cette dynamique-là de transformation des administrations, alors qui se fait de manière plus ou moins rapide en fonction des administrations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les administrations, vous pouvez avoir des gros ministères avec des gros bataillons de fonctionnaires. Par exemple, vous avez l'éducation nationale avec un million de fonctionnaires. Et puis, vous avez des toutes petites collectivités territoriales avec quelques dizaines de fonctionnaires. Et donc, forcément, vous ne faites pas bouger une administration de la même manière en fonction des profils, des métiers, mais aussi de la taille de l'organisation. Et ça, on retrouve un peu les mêmes problématiques que dans des grosses organisations privées où c'est des grosses machines qui peuvent mettre du temps à se transformer. Mais on voit qu'il y a une très forte accélération ces dernières années. Sur ce point-là. Et donc, plutôt que le statut, la question, c'est comment on adapte les modalités de gestion des ressources humaines dans la fonction publique, les méthodes de travail, comment on donne plus d'autonomie aux agents, parce que ça correspond aussi à des aspirations, notamment des nouvelles générations.
Je vous voyais sourire, Gaëlle Martinez. Le travail en mode projet et les questions de management, c'est quelque chose qui mérite une attention particulière au sein de la fonction publique ?
Alors après, ça sera peut-être un vrai point de désaccord que nous aurons à ce moment-là. Pour nous, les questions de management, etc., c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. On a tendance souvent à trouver que il y a un vrai décalage entre la base et ce que vous disiez, hein, que les agents qui connaissent le travail de terrain parfois, et souvent une hiérarchie qui est parfois un petit peu déconnectée des réalités concrètes de ce qui se passe, et souvent parfois aujourd'hui des managers qui bouge peut-être, dans ce cas-là, un petit peu vite, d'une administration à une autre, et qui n'ont pas d'idée réelle de ce qui se passe sur le terrain, et qui, du coup, créent de vraies difficultés dans l'exercice des services publics.
Ça fait longtemps qu'on parle de manager dans la fonction publique, Aurélie Perrin.
Alors, c'est assez drôle parce que la modernisation de la fonction publique, effectivement, c'est aussi une vieille ancienne, quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Il y a eu le renouveau du service public en 89. C'est pas si nouveau, et la circulation des élites et des cadres, ce qu'on appelait à l'époque des cadres de la fonction publique, notamment les échanges avec les pays anglo-saxons, ça a toute une histoire, c'est aussi pas nouveau. Donc, c'est une, comment dire, une injonction perpétuelle à la modernisation qui prend aujourd'hui de nouveaux atours ou qui prend aujourd'hui de nouvelles formes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des relais. Enfin, l'association FP21 se fait le relais de ces initiatives de transformation par le bas des pratiques. Et ça, c'est peut-être un changement parce que jusqu'à présent, on était quand même dans le changement par le haut, effectivement, avec une culture hiérarchique descendante qui a pu être... un peu vécu de façon qui a été vécu de façon assez brutale, on le mesurait dans des enquêtes sur les changements organisationnels il y a déjà une dizaine d'années, avec justement cette question de quel est le sens du travail face à des changements de pratiques. Et une chose qui a beaucoup heurté les fonctionnaires et qui va à l'encontre de l'innovation, c'est la normalisation des pratiques. Les citoyens réclament de la performance publique, au sens où ils veulent des services publics plus transparents, plus réactifs, etc. Ils veulent qu'on leur réponde dans la minute quand ils envoient un message à l'administration. Ils veulent qu'on traite leur dossier très vite. Ils veulent pouvoir donner leur avis sur des enquêtes de satisfaction. Et donc l'administration s'est engagée dans cette modernisation. Et en face, il faut que les agents publics, du coup, rendent des comptes, suivent des procédures très, très précises, très contraignantes, et notamment à Bercy, qui est l'administration la plus contrainte de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de comptes de procédures, et dans certains cas, les identités professionnelles ont été un peu malmenées, déstabilisées. Les agences disaient, mais on sait bien faire notre travail, pourquoi changer de force la manière dont on le fait? Donc, à la fois, oui, il y a de la nouveauté, à la fois, je vous dis, une très longue histoire du changement et de la volonté de moderniser la fonction publique, et des agents qui s'adaptent comme ils peuvent, mais qui s'adaptent effectivement, qui se forment, qui évoluent régulièrement. Il y a beaucoup de mobilité, de petite mobilité dans la fonction publique, qu'on capte mal par les statistiques, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup d'outils qui permettent la mobilité, l'adaptation et le changement, et le statut. Tout à l'heure, je parlais de carcan statutaire, ce n'était effectivement pas mes mots. Le statut permet tout à fait le changement. Et c'est ce que montre l'administration publique depuis toujours. Elle s'adapte en permanence. Et
parmi les outils qui peuvent permettre justement cette mobilité, cette adaptation au changement, il y a évidemment la rémunération. À quoi bon être encore fonctionnaire? Est-ce que la rémunération des fonctionnaires aujourd'hui est quelque chose qui est suffisamment valorisé? Avec cette idée, alors on ne sait pas très bien, hein, moi, en tout cas moi je ne suis pas sûr d'avoir compris, qu'il y aurait peut-être une part de rémunération au mérite. Là aussi, ça fait partie des vieux sujets dès qu'on parle de la fonction publique, mais dans le projet de loi qui est défendu aujourd'hui par le gouvernement, tiens, ben est-ce que c'est quelque chose qui, du côté de l'association FP21, la rémunération au mérite, pour peut-être aussi rendre la fonction publique plus attractive, c'est quelque chose qui vous semble intéressant, Emiliane You?
Alors, je ne m'exprimerai pas forcément au titre de l'association sur cette question-là, parce qu'on n'a pas forcément une position sur ce sujet spécifiquement.
Et alors, au titre d'Emiliane You,
voilà,
toute seule.
Si je dois m'exprimer à titre personnel. Donc d'abord, pour l'instant, dans le projet de loi, il n'y a rien qui concerne, sauf erreur de ma part, la rémunération au mérite pour les fonctionnaires statutaires. Par ailleurs, la rémunération au mérite, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été expérimenté, que ce soit la prime de fonction et de résultat ou d'autres types de primes à la performance, notamment dans des collectivités territoriales. Ce qu'on peut dire en termes de rémunération sur les fonctionnaires, c'est que souvent on a tendance à dire que c'est pas forcément des rémunérations attractives par rapport au privé, ce qui est faux. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, sur le bas des échelles de rémunération, la fonction publique a tendance à proposer des niveaux de rémunération un peu plus élevés que dans le privé. C'est souvent sur les échelles de rémunération un peu plus élevées. Mais en fait, souvent...
Ça dépend de la fonction publique, en fait. Je crois que la territoriale
aussi
est moins bien dotée, on va dire,
là aussi, on
que
a,
la fonction
voilà,
publique
on a
d'État.
Une grande, on a
parce
une
que
grande
les recrutements
ne
sont pas non plus peut-être les mêmes.
Voilà. Et puis, souvent, ce sujet-là, il en cache bien d'autres. C'est-à-dire qu'on a vu déjà que la motivation pour intégrer le service public, elle n'est pas liée à la rémunération, elle est liée à l'intérêt du métier, elle est liée au sens des missions, à l'intérêt général, aux valeurs qui sont portées. Donc déjà, les personnes qui s'orientent vers la fonction publique, elles ne viennent pas chercher une rémunération au mérite. Ensuite, la rémunération au mérite, pourquoi ? Si c'est pour valoriser, reconnaître l'engagement des agents, il y a plein d'autres leviers possibles en termes de ressources humaines, en termes de management. Il faut savoir aussi que la rémunération au mérite, ça se fait sur une partie indemnitaire et non pas sur le traitement indiciaire qui constitue le socle de la rémunération des fonctionnaires et qui est pris en compte aussi pour le calcul de la retraite, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis enfin, si je peux avoir un avis tout personnel sur la rémunération au mérite. Quand on part sur ce sujet-là, on part sur de la reconnaissance de la performance individuelle quand c'est des primes au mérite individuel. Parce qu'il peut y avoir aussi des primes au mérite collectif. Et donc, ça me semble assez contradictoire avec le principe de la fonction publique, qui est l'intérêt général, qui est de faire travailler ensemble différents services. Et aujourd'hui, un fonctionnaire tout seul, il peut pas grand-chose. Il est dépendant de ses collègues, des autres services, de la bonne collaboration aussi avec les citoyens, parfois avec les élus aussi dans les collectivités territoriales. Et donc, faire peser sur lui cette responsabilité-là, encourager à la concurrence inter-service ou inter-individuelle, c'est pas ça qui nous permettra de répondre aux défis sociétaux qu'on a à relever dans la fonction publique.
Vous aviez un petit désaccord tout à l'heure avec Gaëlle Martinez. Je crois que sur ce point, vous allez être à nouveau sur la même longueur d'onde,
oui,
Gaëlle Martinez.
Très clairement, pour nous, service public, fonction publique, ça ne peut pas aller avec rémunération au mérite. Effectivement, on ne peut pas y avoir de concurrence. Nous avons des services publics à faire fonctionner, nous avons des missions à mener. On ne peut pas dire qu'il y a une mission qui est mieux qu'une autre. Quels critères pourrait-on donner pour de la rémunération au mérite, par exemple pour une infirmière? Voilà. Quels critères objectifs pourrions-nous avoir? Pareil dans l'éducation nationale.
Pourquoi pas la satisfaction de ses patients?
Ah, la satisfaction, c'est tellement subjectif. C'est comme sur l'éducation nationale. Est-ce que ça va être mieux d'amener une classe à l'objectif qu'on voulait? Mais quelle classe, quel quartier, quel effectif dans la classe, quel point de départ? C'est très très difficile, ça serait très difficile. Autre point, quel budget? Aujourd'hui, le gouvernement parle souvent de la rémunération au mérite, sauf que le gouvernement dit aussi qu'on est sur un cadre totalement contraint et que donc, de toute façon, on sait très clairement que de l'argent dans les poches, il n'y en a pas. Autant qu'on veut bien le dire ou le laisser entendre pour cette fabuleuse rémunération au mérite. Par contre, il y a une véritable nécessité salariale dans la fonction publique, très clairement. Le gel du point d'indice depuis de trop nombreuses années, parce que on dit effectivement qu'il n'y a plus d'argent, sauf que de l'argent, on peut en trouver, notamment au travers de la lutte contre la fraude fiscale, qui représente en gros 80 milliards d'euros par an, donc ça n'est pas rien. Donc oui, il y a une nécessité salariale très claire dans la fonction publique, à laquelle il faudrait répondre, mais nous, on considère que la réponse, là, elle est collective, et elle n'est pas sur de la rémunération au mérite, loin de là.
Un tout dernier mot, Aurélie Perrin. Est-ce que devenir fonctionnaire, aujourd'hui, ça fonctionne encore du point de vue de l'ascension sociale? Est-ce que c'est quelque chose qui est attractif de ce point de vue dans certaines familles? C'est-à-dire, voilà, être fonctionnaire, c'est une preuve de mobilité, d'ascension sociale?
Oh que oui. La fonction publique, c'est une vraie voie d'ascension sociale pour les enfants des classes populaires qui ont obtenu un diplôme du supérieur court ou long. Donc ça, c'est même un projet d'ascension sociale qui est malmené par la diminution des recrutements statutaires. Et on retrouve une grande partie de ces jeunes, comme la majorité des jeunes entrant dans la fonction publique d'ailleurs, sur du CDD pendant de longues années, comme un espèce de sas à l'entrée de la fonction publique. Et si je peux me permettre, juste sur la rémunération au mérite, c'est aussi un vieux sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de l'importer en France, elle a été testée à l'étranger dans de nombreux pays. Et ça a montré beaucoup de limites. Parce que justement, comme on l'a dit, le levier de motivation des fonctionnaires, ce n'est pas la rémunération. Et du coup, ce n'est pas la bonne forme de motivation. Et il faut trouver d'autres leviers. Donc il y a des choses qui ont été tentées, qui sont intéressantes, du côté collectif, du côté de la mobilité, de la formation, etc. Et l'autre chose, c'est que finalement, quand c'est mis en place la rémunération au mérite dans la fonction publique, il n'y a pas assez de différenciation salariale pour que ça ait un effet. Parce que, comme le disait l'autre intervenante, finalement, il n'y a pas une enveloppe budgétaire énorme à mettre en face.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Gaëlle Martinez, Émilie Agnew et Aurélie Perrin, je rappelle le titre de votre livre à paraître chez Armand Collin, Sociologie de l'emploi public. Je remercie nos camarades de France Bleu à Aix-en-Provence qui assuraient le duplex. À Paris, la prise de son était assurée par Alexandre Dang, la réalisation par Peyré Legras. Et merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand.